Alors, pour terminer cette journée, on va reprendre. Contre les stratégies d'évitement et d'externalisation pardon, dont on a parlé tout à l'heure, qui malheureusement renvoie à la laïcité d'incompétence que Régis Debray dénonçait en 2002. Eh bien, on vous propose, pour clôturer cette journée, donc quatre témoignages d'enseignants qui ont bien voulu répondre présent à l'invitation à ce colloque, qui vont venir nous partager leurs approches, leurs pratiques, leurs questionnements aussi, qui vont venir témoigner justement de la façon dont ils s'y sont pris pour justement investir cette laïcité d'intelligence et qui viennent nous montrer qu'elle est en marche, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Alors, ils ont été appelés à répondre à quelques questions pour construire leurs petits exposés. Sur quels leviers se sont appuyés pour enseigner les faits religieux? Quelles sont les finalités qu'ils poursuivent dans cet enseignement? Et enfin, quels sont les obstacles auxquels ils ont été confrontés et qu'ils peuvent rencontrer du côté des familles, du côté des élèves ou du côté de l'administration scolaire? Du côté de leurs collègues également. Je vais les laisser se présenter à tour de rôle et ensuite on va leur donner la parole pour qu'ils puissent exposer tranquillement eh bien, ce qu'ils ont mis en place et quelle aura été leur approche.
Bonjour, donc Laurent Klein, je suis directeur d'école élémentaire à Paris dans le 19e arrondissement en REP.
Bonjour, Claire Podetti, moi j'enseigne en collège depuis 25 ans et j'ai fait à peu près la moitié de ma carrière en éducation prioritaire. À l'époque, c'était des zones d'éducation prioritaire.
Bonjour, Martine Durand-Thérault, je suis professeure des écoles et actuellement détachée à l'université à l'ESPE de Toulouse en tant que ATER. Je suis aussi docteur en sciences d'éducation et j'ai soutenu une thèse l'année dernière sur la faisabilité de l'enseignement moral à l'école élémentaire. Et l'année dernière, je faisais aussi partie, j'étais membre du conseil de réflexion sur la laïcité au rectorat de Toulouse.
Bonjour, Muriel Guitanodin. Donc moi, j'enseigne au lycée français de Brasilia et j'ai effectué une grande partie de ma carrière dans le secondaire à l'étranger, donc dans des contextes très différents du contexte français. Je suis également titulaire d'un doctorat en histoire du fait religieux que j'ai soutenu il y a quelques années à l'École pratique des hautes études et au sein du laboratoire groupe société religion laïcité auquel plusieurs membres de l'association Enquête sont liés.
Merci. Alors je vais vous laisser la parole. On va commencer par vous, Monsieur Klein.
Voilà, donc le 19e arrondissement, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais les frères Kouachi, ça doit vous dire quelque chose. Voilà, ce sont parmi les élèves de notre quartier dont on a entendu parler. Donc on pourrait se dire que dans un quartier comme celui-ci, avec une population qui connaît des grandes difficultés sociales, peu de mixité, une population d'origine étrangère nombreuse, ça doit être très difficile d'enseigner les faits religieux. En fait, non. Et je vais vous expliquer comment nous avons procédé à l'école. Bon, il se trouve que le sujet m'intéresse. Hein, donc ça a été la base du départ de ce projet sur l'école. Mais on s'est aperçu très vite avec les enseignants que ça intéressait énormément les élèves et les familles. Ensuite, pour que ça se passe bien, je vais reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure à propos de la sortie scolaire. Il faut anticiper et informer les familles. Ça, c'est le contexte général, et c'est un conseil que je donnerais vraiment à tous les enseignants qui veulent se lancer dans ce type d'enseignement. Informer les familles et leur expliquer quel est le but de cet enseignement. Ensuite, il faut trouver les enseignants qui sont intéressés et qui sont motivés pour travailler sur ces sujets. Et en fait, dès que les enseignants commencent à s'y intéresser, ils s'aperçoivent que, comme les élèves accrochent bien au sujet, ça va très vite et ça va très loin. Alors je vais vous donner quelques exemples. Voilà, j'ai préparé quelques documents qui vont me permettre de faire un petit tour général des façons dont on a travaillé à l'école. Alors je disais un sujet qui intéresse les élèves, et par exemple, si je prends cet exemple de la classe une classe de CM2... Voilà, l'enseignant me dit, mes élèves me posent beaucoup de questions sur les religions, c'est parti d'un texte qu'ils ont vu en classe, et les élèves ont accroché sur des questions à propos des religions. Bon. Donc, il me demande si je veux bien venir en parler à l'école, et du coup, en classe. Donc, nous avons pris rendez-vous, en fait, avec la classe, et tous les vendredis matins, je venais dans la classe, ils avaient un cahier, ils posaient leurs questions dans le cahier, et je répondais au fur et à mesure. Donc, parfois, je pouvais répondre tout de suite, et puis, surtout, essayer de les faire participer, les uns et les autres. Parfois, je disais, écoutez, renseignez-vous de votre côté, moi, je vais me renseigner de mon côté, on en reparlera la semaine prochaine. Et ça a permis aussi de reprendre le cadre de l'école laïque. Oui, à l'école laïque, on peut parler de religion avec un certain nombre de réserves. C'est-à-dire que oui, vous les élèves, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Non, nous les enseignants, nous ne vous dirons pas si nous sommes croyants ou non. De même que nous ne vous dirons pas nos opinions politiques et nous ne ferons pas de publicité commerciale. Voilà, ça fait partie de nos obligations. Mais vous, vous avez tout à fait le droit de poser toutes les questions que vous voulez et de parler. Voilà. Donc, ça nous a permis... Donc ça, ce que vous voyez là, c'est un quiz qu'on a posé en fin de période, là où on avait vu un certain nombre de choses. Avant de continuer, un petit questionnaire. Donc il y a quelques questions sur la laïcité, parce que ça les a interpellés. Parce que la plupart d'entre eux pensaient qu'effectivement, dans une école laïque, dans un pays laïque, la religion est interdite ou même taboue. Ils se sont aperçus qu'en fait, ils avaient beaucoup plus de liberté religieuse que parfois dans le pays d'origine de leurs parents. Et ça, ça a été une véritable surprise pour eux. Ensuite, il a fallu définir, et ça c'est quelque chose que nous faisons tous les ans avec tous les élèves. On estime que tous les élèves qui quittent l'école élémentaire doivent avoir un bagage minimum de vocabulaire concernant l'enseignement des faits religieux. Par exemple, savoir ce que c'est non seulement monothéiste et polythéiste, mais aussi athée et agnostique, pour vraiment connaître la différence entre les deux. Ensuite, savoir que être français, ça ne veut pas dire être chrétien, être juif, ça ne veut pas dire être israélien, et être arabe, ça ne veut pas dire être musulman. Des petites choses comme ça, mais c'est très flou. L'idée de nationalité, d'identité, l'idée de religion, tout ça est très très flou. Et permettre aux élèves d'appréhender le fait qu'ils ont des identités multiples et qu'ils peuvent se poser des questions sur leur identité, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire dès l'école élémentaire. Et puis ensuite, il y avait eu un travail sur Jésus. Donc effectivement, Jésus, tout à l'heure, on disait que certains enseignants n'osaient pas prononcer le nom de Jésus. Bon, Jésus, c'est un prénom. Hein, et donc, on avait vu, en répondant à leurs questions, un certain nombre de choses. Donc du coup, comment on dit... Jésus, quelle est l'origine de ce nom? Qu'est-ce qu'il veut dire, puisque le nom est signifiant par lui-même déjà? Qui est-il pour les chrétiens, les musulmans, les juifs? Et puis, est-ce qu'il était juif ou chrétien? Est-ce que ce sont les disciples de Jésus qui ont créé le christianisme? Ben oui, puisque la question d'élève, s'il était juif, il n'était pas chrétien. Donc, qui est-ce qui a créé le christianisme? Les élèves ont des questions tout à fait logiques, hein, et ça permet vraiment de mettre un peu de clarté dans toutes les idées qui circulent dans les familles ou entre les élèves. Et c'est un sujet qui vraiment les intéresse. Donc ça, c'est un type de travail qui était un petit peu au pied levé, comme ça, pour répondre aux questions des élèves. C'était une espèce de rendez-vous hebdomadaire. Après, on a parlé d'autres choses. Là, j'ai pris un des exemples, mais on a parlé d'autres choses tout au long de l'année. Ensuite, une des choses que nous faisons régulièrement également avec tous les élèves, c'est des visites de lieux de culte. Alors, je sais bien que c'est sans doute plus facile à Paris qu'à Caen ou dans une petite ville de province, mais nous avons la possibilité de visiter une synagogue, une église, une mosquée, et nous avons même à côté de l'école un temple de Ganesh. Donc ça, c'est vraiment le nec plus ultra, parce qu'on peut même voir un lieu de culte polythéiste. Donc c'est pas quelque chose qui reste totalement abstrait dans leur tête. Et donc, un petit quiz en fin de période. L'idée, c'est que les élèves fassent la visite. Donc la visite se prépare en amont. Pendant la visite, l'enseignant ou moi-même qui accompagne la visite Nous sommes garants de ce qui se dit. Alors parfois, il y a quelqu'un du lieu de culte qui peut être présent. Mais nous devons avoir la main. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est dans un lieu de culte va parler d'un point de vue, qui n'est pas le point de vue de l'école publique. Et donc, il faut bien se mettre d'accord avec la personne qui nous accueille, que nous sommes nous venons d'une école publique et laïque, que nous nous intéressons à ce lieu de culte, mais que nous ne venons pas pour un cours de religion. Et que donc, c'est l'enseignant ou c'est moi qui vais mener la visite. Donc l'idée, c'est de savoir dégager ce qu'on veut montrer d'un lieu de culte, avec l'idée de pouvoir faire du lien. C'est-à-dire, tiens, on a vu ça à la synagogue, mais c'est pas la même chose à l'église, mais ah oui, c'est pareil à la mosquée, il n'y a pas de représentation de personnages. Ah tiens, dans les églises et les synagogues, on s'assoit, mais à la mosquée, il n'y a pas de siège. Ah tiens, le lieu le plus important, le lieu central dans la synagogue, dans l'église, la mosquée, c'est tel et tel et tel endroit, et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Des petites choses comme ça, les élèves retiennent. Et comme en plus certains ont des pratiques religieuses, ils peuvent apporter des anecdotes. Et comme ça a été bien précisé, ce ne sont pas eux les spécialistes. C'est toujours à l'enseignant de valider. Tiens, tu me dis ça, d'où est-ce que tu sais ça ? D'où est-ce que tu as vérifié ? Parfois, en fait, c'est juste une pratique familiale ou une coutume locale. Et ça n'a rien à voir avec la pratique religieuse commune. Et puis ça permet aussi de voir les différences. Tiens, par exemple, on visite une synagogue, on va nous expliquer que les hommes sont en bas, les femmes sont en haut. Ah, eh bien tiens, moi je connais des synagogues où les hommes et les femmes sont ensemble. Donc toujours montrer qu'il n'y a pas une façon d'être juif, chrétien ou musulman, qu'il y a plusieurs façons. Et je me souviens par exemple de la visite de la mosquée de la rue de Tanger, puisqu'il y a une mosquée en construction dans notre quartier. Et quand la personne qui nous a reçus a dit aux élèves « Ah, le voile, non, ce n'est pas une obligation, hein, c'est absolument pas écrit dans le Coran », que ce soit la personne qui nous reçoive qui dit ça aux élèves, je veux dire que j'ai vu le regard de certains élèves qui se sont demandé « mais alors quoi, qu'est-ce qui est vrai ?» Et en fait, c'est intéressant qu'ils puissent se poser des questions. Ensuite, quand on fait une visite, évidemment, il y a des choses à retenir. Donc les élèves, on prend des photos, les élèves font des petits panneaux à afficher après dans la classe ou même dans le préau de l'école. Mais voilà, après, il y a des choses à savoir. Et donc c'est pour ça qu'il y a un petit questionnaire très simple où les élèves répondent par deux ou trois, ils se mettent ensemble pour voir s'ils sont d'accord sur ce qu'ils ont bien retenu. Donc voilà, par exemple, on trouve des statues ou des peintures qui représentent des personnages. Donc, est-ce qu'on va cocher judaïsme, christianisme, islam, hindouisme, ou bien il faut faire des ablutions avant de prier, ben, où est-ce qu'on a vu ça ? Ou bien encore, il y avait un drapeau français sur la façade. Ben oui, où est-ce qu'on a vu ça ? On a vu ça sur un des lieux de culte. Donc, il y a toujours moyen d'intéresser les élèves sans les faire entrer dans une leçon de religion, mais toujours de faire du lien pour qu'ils comprennent que, oui, il y a du lien entre ces religions, mais surtout, il y a des différences qu'il faut accepter. Parce qu'on ne va pas être dans un discours lénifiant et en train de dire « tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Non, il y a des différences, et c'est peut-être ces différences-là qui sont intéressantes. Alors que c'est souvent le plus difficile, évidemment, pour eux à accepter. Ensuite, on peut travailler aussi à partir de textes de traditions religieuses. Alors certes, ce qui est très en vogue à Paris, alors je ne sais pas si c'est aussi le cas dans les autres écoles, dans les autres académies, mais c'est tout ce qui tourne autour de la mythologie grecque. Donc dans les classes, on lit énormément de mythologie grecque. Mais on peut s'intéresser aussi à des textes qui font référence à notre patrimoine culturel qui n'est pas simplement grec, mais qui est aussi juif et chrétien, et qui est aussi en lien avec l'islam, parce que tout d'un coup, on va s'apercevoir que ce qu'on pensait être tout à fait chrétien, eh ben, on en parle aussi beaucoup dans l'islam, par exemple. Alors, un exemple, c'est Caïn et Abel. Donc voilà un texte, donc pas très difficile de le trouver, hein, ça se trouve dans la Bible. L'autre texte se trouve dans le Coran. Ce sont des textes qui ne sont pas très compliqués à lire pour des élèves de CM2, même CM1 éventuellement. On dresse le contexte, évidemment. Et puis, l'idée, c'est de faire lire les élèves et de les faire interpréter les textes. Parce que ces textes ne sont pas, on l'a dit tout à l'heure, la propriété des religions. Ces textes font partie du patrimoine culturel mondial. Tout le monde a le droit de les prendre, de les lire, de les interpréter, d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, d'essayer de comprendre ce que ça leur dit aujourd'hui, et d'essayer de comprendre en quoi ça leur parle. Une petite anecdote, on se trouve d'ailleurs avec ma collègue qui est assise ici, on se trouve un jour dans le RER et on croise une jeune femme qui a un t-shirt marqué « Suis-je le gardien de mon frère ?»« Suis-je le gardien de mon frère ?» c'est une référence, c'est dans le texte de Caïn et Abel. Dieu aurait interrogé Caïn en lui disant ben, « Où est ton frère Abel ?» alors que Dieu évidemment sait que Caïn a tué Abel. Et Abel et Caïn répond « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et il y a toujours des élèves qui comprennent et qui vont tirer l'ensemble de la classe vers la compréhension du texte. Et en fait, la jeune femme qu'on avait rencontrée dans le RER avait totalement interprété totalement à l'envers ce texte. C'est-à-dire qu'elle disait « Voilà, moi je viens de banlieue, hein, on me considère comme une racaille parce que en banlieue, il y a des racailles. Donc autrement dit, est-ce que je suis obligé d'être mal considéré par la société parce qu'on va mal considérer l'ensemble des jeunes qui vivent en banlieue ? » En fait, c'est pas du tout ça que veut dire le texte. Le texte veut dire « Suis-je le gardien de mon frère ? » C'est-à-dire « Suis-je responsable de mon frère humain ?» La réponse implicite étant « Oui, bien sûr, on est responsable les uns des autres. » Et puis ce qui est intéressant aussi, quand on a deux textes qui parlent d'un même récit, mais qui ont des points de vue différents, c'est qu'on peut faire travailler les élèves justement sur ces différences. Par exemple, dans le texte biblique, ce qui est surligné en bleu, « L'Éternel dit à Caïn. » Tiens, là, Dieu parle à Caïn. Dans le texte coranique, il n'y a pas ce genre de formule. C'est-à-dire que le texte est totalement différent. Ensuite, dans le texte biblique, on dit « Où Caïn aurait tué Abel ?» Et dans le texte coranique, on dit simplement que c'est son âme qui l'incita à tuer son frère. D'ailleurs, on ne dit jamais le nom des deux frères, ni Caïn ni Abel. Et puis, on trouve des choses particulières aussi. Donc, au texte coranique, par exemple, c'est un corbeau qui va gratter la terre et qui va montrer à Caïn comment enterrer son frère. Et autrement dit, c'est un corbeau qui va apprendre à Caïn à se comporter comme un être humain. Tout ça, c'est dit par les élèves. Alors, on les aide, évidemment, mais je vous assure que c'est la plupart du temps les élèves qui trouvent, évidemment, ce qu'il y a dans le texte. Et donc, ça permet aux élèves de comprendre que ces textes, dont ils peuvent entendre parler à la maison, dont on peut leur dire « ça vient du Coran, c'est sacré, on n'a pas le droit d'y toucher », eh bien, ils s'aperçoivent qu'en fait, oui, on peut y toucher, tout le monde peut le lire. Ça vient de la Bible, j'entends ça à l'église, j'ai quelques familles évangélistes dans l'école, c'est la voix de Dieu, on n'a pas le droit d'y toucher. Ben si, on a le droit d'y toucher, et c'est justement notre travail à l'école, dans une école publique, de toucher ces textes, de ne pas les désacraliser, mais simplement de montrer que tout un chacun peut les lire, les interpréter et en sortir quelque chose. Et notamment, ensuite, montrer aux élèves qu'on peut aussi avoir accès à des œuvres patrimoniales, à des œuvres d'art, qui parle également de ces textes et qui montre comment les artistes ont interprété ces textes. Alors ici, on a les Portes du Paradis, donc à Florence. Donc on voit différents moments donc, de l'épisode de Caïn et Abel, donc l'offrande de sacrifice, l'assassinat, hein, et puis Caïn qui est rejeté. Ensuite, on a d'autres interprétations, évidemment. Ici, donc, c'est un ivoire qui est au musée du Louvre. Donc, le sacrifice, le crime et Caïn qui est rejeté. Donc là, on a une interprétation médiévale également. Donc, on voit les différents styles aussi, ça permet. Et puis, on peut passer aussi... Alors, ça, c'est un peintre de la Renaissance. Et on peut passer dans le monde islamique... Et montrer, donc c'est Caïn qui porte le corps d'Abel et le corbeau qui lui montre comment on va enterrer. Et donc on s'aperçoit aussi que dans l'art islamique, on peut représenter l'être humain. Mais que nos élèves, qui viennent la plupart du temps du Maghreb, soient dans une autre tradition que la tradition iranienne ou turque, où on représente les êtres humains, ça leur permet de comprendre qu'il y a aussi de la variété en islam et qu'il n'y a pas un seul islam. Et puis, on peut passer aussi à une interprétation contemporaine à travers la photographie du même récit de Caïn et Abel. Donc, on peut leur faire créer leur propre interprétation artistique. L'idée, alors, ce travail d'interprétation artistique, on peut le trouver également sur le site de l'Académie de Paris, où il y a toute une séquence d'histoire des arts sur le jugement de Salomon. Donc là, ça permet justement d'allier enseignement des faits religieux et histoire des arts, donc à partir du tableau de Poussin, et donc toute une séquence qui permet de travailler. Et il y a même, alors je ne sais pas s'il y a la photo ici, mais il y avait des élèves d'une école qui avaient recréé. Donc là, on travaille sur le tableau et comment le tableau est mis en forme, et comment plutôt l'histoire est mise en forme dans le tableau. Et je crois qu'il y a une... Alors ça, c'est une autre présentation. Une autre... Je ne sais pas s'il y a une photo. Il y avait une classe qui avait... Voilà, ça, c'est une scénette que les élèves d'une école ont créée. Et je pense qu'en bas, on va voir la photo où ils sont tous. Voilà. Ils ont recréé le tableau. Donc évidemment, on ne voit pas les élèves, puisqu'on ne peut pas photographier les visages des élèves. Voilà, ils ont recréé le tableau eux-mêmes. Et donc, on part d'un petit texte biblique qui fait quelques lignes, mais le jugement de Salomon, dire c'est un jugement de Salomon, c'est une expression de la langue courante. Donc ça permet aussi de comprendre comment le langage s'est emparé de ces différents événements, et que ça n'a rien de purement religieux de parler de ça. Alors l'idée, évidemment, et puis je vais arrêter là. Bon, ça, c'est un travail qu'on avait fait avec une classe, avec trois classes de CM1, CM2. On avait travaillé autour d'Abraham. Et puis on avait travaillé aussi sur la notion de calendrier, du temps. C'est des élèves qui avaient fait tout un travail en science sur l'observation des phases de la Lune. Donc ça avait permis de travailler sur le temps et les calendriers. Et l'idée, vous voyez, c'était... évidemment, c'est le questionnaire final rempli. On ne leur a pas donné comme ça. Mais donc, on s'était mis d'accord et on a expliqué pourquoi on parlait toujours dans l'ordre chronologique de judaïsme, christianisme, islam, c'est-à-dire que les religions ne tombent pas du ciel, si je puis dire, elles sont ancrées dans l'histoire, donc la chronologie, c'est important. Ensuite, comme je vous disais, savoir nommer précisément le nom des croyants, donc juifs, juifs, chrétiens, chrétiennes, musulmans, musulmanes, et pas mélanger avec les questions de nationalité ou de couleur de peau, le nom du lieu de culte, le nom du livre saint, le jour le plus important de la semaine, parce que s'il y a des anecdotes que les élèves retiennent, par exemple l'histoire du Shabbat, ça leur plaît beaucoup. Bon, et puis à Paris, on est quand même dans des quartiers très mélangés, donc ils voient qu'il y a des... Nous, on voit tous les gens qui vont à la mosquée le vendredi, qui passent devant l'école, par exemple, donc c'est aussi très présent. Et puis, du coup, comme on avait parlé d'Abraham, il y a la fameuse histoire du sacrifice ou de l'absence de sacrifice, justement, d'Abraham. Alors, quel est le fils choisi? Ben, ça, c'est évidemment la petite querelle. Est-ce que c'est Isaac? Est-ce que c'est Ismaël? Mais on avait vu que le récit biblique plaçait cet endroit là où il y a eu le temple de Jérusalem et là où maintenant il y a le dôme du rocher. Et donc, on avait vu des photos de Jérusalem. Donc, il devait retenir le lieu de prière le plus important pour chaque religion à Jérusalem. Et du coup, on avait trouvé aussi le nom de la ville en arabe, en français et en hébreu. Voilà, ça avait duré un trimestre, hein, tout ce travail sur Abraham et sur les calendriers. Donc, il y a différentes façons, évidemment, d'aborder tous ces sujets. L'important, comme je vous disais, c'est toujours de donner... d'expliquer aux élèves quel est le but de ce travail et de leur permettre de s'exprimer. Effectivement, il y a des élèves qui vont avoir tendance, par exemple, pour un travail où ils vont faire, à partir des photos de visite de lieux de culte, ils vont vouloir faire des petits panneaux, ils vont peut-être avoir envie de se regrouper par confession. Bon, ça, c'est à l'enseignant de l'éviter. De même qu'on va éviter que les filles et les garçons ne se mélangent jamais. Hein, donc ça, c'est le travail de l'enseignant. Mais nous, on pense que... Alors, je parlais des frères Kouachi tout à l'heure. C'est peut-être notre petite pierre à la déradicalisation. C'est-à-dire qu'on se dit qu'un élève qui a quelques connaissances réelles, qui sait qu'on peut se poser des questions sur les textes religieux, et qui a visité et qui est entré dans différents lieux de culte, sera peut-être beaucoup moins tenté par la radicalisation. Ils sont encore à un âge frais, on va dire, en CM1, CM2. Ils ne sont pas encore... plus fermés peut-être sur leur identité que quand ils arrivent au collège où parfois ils ont tendance à être un peu plus radicaux, si je puis dire, pas dans le sens on l'entend maintenant, mais donc on en profite justement pour faire ce travail à ce moment-là, d'autant plus vous avez vu qu'on peut aussi bien l'aborder à travers l'histoire des arts, les lettres, les sciences, avec l'observation de la lune qui nous a fait déboucher sur le calendrier. Voilà, donc et ça fait vraiment très longtemps que je suis dans cette école et je n'ai pas vu une seule année où ça n'intéressait pas les élèves de travailler sur ces sujets.
Alors, merci Laurent. Effectivement, on voit avec ce témoignage qu'une infinité de choses est vraiment possible et que là, tout le professionnalisme de l'enseignant est vraiment nécessaire. Hein. Et là, on est vraiment sur de la transmission de culture générale, fondamentale.
Il y a des ressources. Hein. Il y a toute la collection des récits primordiaux qui, malheureusement, s'est arrêtée à 10 ouvrages. Donc, vous voyez, c'est varié. Il y a Jésus, Récits de la mort et de l'au-delà. J'en ai pris quelques-uns. Mohammed, Les déesses de l'Olympe. Donc, c'est vraiment des récits très variés avec énormément de... une iconographie très très riche et toujours des explications sur ces textes. Et puis, alors là, c'est un petit peu de publicité, mais si vous hésitez à enseigner les faits religieux dans le cadre de la laïcité, y a un ouvrage qui vient de sortir. Bon, j'en parle, je suis un des auteurs avec Séverine qui est là et notre ancienne inspectrice. On montre quelques... façon d'aborder justement l'enseignement des faits religieux et aussi comment éviter, non pas contourner, non pas éviter d'ailleurs, mais comment aborder les problématiques qui peuvent se poser autour de la laïcité dans une école. Parce qu'on ne va pas le nier, il y a certaines problématiques. Le tout est de savoir comment est-ce qu'on les envisage et comment est-ce qu'on en parle avec les familles et comment est-ce qu'on en parle avec les élèves. Voilà, il y a des flyers sur cet ouvrage que je pose là.
Merci. Alors, pour poursuivre avec ce qu'il est possible de faire à l'école primaire, on ne va pas donner tout de suite la parole à Claire Podetti, mais la passer directement à Martine Durantero, qui intervient aussi en école primaire et qui a eu une expérience à nous partager.
Oui. Alors très vite dans ma carrière professionnelle, je me suis rendu compte que certes, si les faits religieux étaient inscrits dans le socle commun, en réalité, c'est un besoin d'en parler en classe, parce qu'il y a multiples références aux religions. Et aussi l'autre point, Laurent a souligné, c'est que quand on parle de faits religieux, en fin de compte, ça intéresse, il y a une certaine émulation dans la classe, et les élèves sont curieux. Alors, lorsqu'on m'a demandé de réfléchir un petit peu sur quelles étaient sur mes pratiques sur les faits religieux, je me suis dit, mais finalement, dans ma pratique, quels étaient les leviers de cet enseignement? Et j'ai vu, en faisant une analyse pour venir ici, je distingue trois grandes catégories de leviers. Le premier levier, c'est l'ancrage disciplinaire. En fin de compte, l'ancrage disciplinaire majeur, c'est l'enseignement moral et civique avec l'éducation à la laïcité. Et j'y reviendrai plus tard. Mais il y en a d'autres, comme par exemple, en lien avec le PEAC, le parcours éducatif, artistique et culturel, tout au long de l'année, on a l'habitude en classe d'étudier les différents jours fériés du calendrier en lien avec l'histoire et aussi avec l'histoire de l'art. Et bien sûr, ça pose la question des jours fériés des autres religions, enfin des fêtes en tous les cas des autres religions. Et on amène ça et on étudie ça tout le temps en lien avec l'histoire de l'art. L'autre ancrage disciplinaire, c'est bien sûr en cours d'histoire, lorsqu'il faut parler, de la Shoah, donc on vient à parler du judaïsme. Mais aussi, pour prendre comme exemple, à Toulouse, on parle à la fois le maréchal Pétain, qui se disait catholique et qui avait ses opinions, mais du cardinal Saliège, qui est connu à Toulouse pour ses prises de position pendant l'occupation, où il a dénoncé les déportations de juifs. Et ainsi, on montre que ce n'est pas parce qu'on porte une étiquette de religion qu'on a les mêmes opinions. Le deuxième levier, c'est le levier que j'appelle pédagogique et didactique. Il me semble très important que l'enseignement des faits religieux, dans sa mise en œuvre pédagogique et didactique, il a besoin de la même forme, je dirais, d'enseignement que les autres enseignements, comme quand j'enseigne, la proportionnalité en maths, la respiration, SVT, etc. Ce n'est pas un enseignement extraordinaire, en dehors de l'ordinaire. Et finalement, en permettant à l'élève de retrouver les mêmes repères pédagogiques et didactiques comme par exemple les traces écrites, un cahier, des leçons, des exercices avec des corrections et une évaluation, pour moi, il me semble que ça permet de rentrer le fait religieux dans... c'est un enseignement comme un autre, sauf on enseigne les faits religieux. Voilà. Alors certes, en enseignement moral et civique, j'utilise des méthodes pédagogiques qui sont variées et adaptées. L'enseignement des faits religieux, ça va aussi s'inscrire dans cet enseignement moral et civique en général. Le troisième levier, c'est ma posture en tant qu'enseignante. Je pense que si je suis claire et à l'aise avec cet enseignement, ça va contribuer à cet enseignement des faits religieux. Je suis à l'aise, c'est-à-dire que d'abord, enseigner le fait religieux, c'est légitime. On en a déjà parlé aujourd'hui. La laïcité, plus j'ai avancé dans mon travail de thèse et de recherche, plus je crois que j'ai été mieux dans mes baskets par rapport à ce principe de laïcité. Et je crois que ça s'est aussi senti dans mes pratiques et notamment dans les faits religieux. Donc, définir la laïcité comme un cadre républicain, du pluralisme des opinions et des croyances. Voilà. Et ça, c'est un des points essentiels. Je me souviens, l'année dernière, mes élèves ont été... au début de l'année, ils arrivent... Alors moi, j'étais enseignante en CM2, et je crois qu'ils ont été rapidement étonnés qu'on puisse parler de religion sans crispation. Et ils sont partis, je l'espère en tous les cas, avec une définition de la laïcité qui permet justement ce pluralisme des opinions et des croyances. Un autre élément de la posture d'enseignant qui me semble indispensable, c'est ma neutralité. Neutralité de l'enseignant, être neutre, ça ne veut pas dire faire de la classe un terrain vierge de toute pensée, de toute réflexion sur les religions, les croyances et les philosophies. Parce que l'externalisation, finalement, des différences est un appauvrissement. Par contre, les élèves savent que je ne vais pas leur dire comment je me positionne au niveau, parce que je leur laisse cette liberté. Après, l'autre point aussi dans la posture, c'est que souvent, on rencontre des enseignants qui disent « mais moi, je ne m'y connais pas ». Eh bien, je pense que quand il a fallu que j'enseigne, quand je suis arrivée en cycle 3 et qu'il a fallu que j'enseigne par la proportionnalité, je me suis dit, ouais, ça me dit quelque chose, j'ai quelques idées, mais finalement, il va falloir que j'aille refouiller un peu comment former. Oui, on ne s'y connaît pas, on cherche, on se forme et on avance, comme dans toute discipline scolaire. Enfin, l'importance aussi dans la posture d'enseignant, c'est être clair, parce qu'il y a savoir et croire, ces deux verbes différents. Amener des faits religieux, ça n'a rien à voir avec le prosélytisme. Une fois, je pense que l'enseignant est bien dans ses baskets à ce niveau-là, ça facilite vraiment cet enseignement des faits religieux. Donc je vais revenir juste sur le levier majeur. Donc j'ai cité trois leviers, l'ancrage disciplinaire, l'ancrage pédagogique et didactique et la posture enseignante. Donc je vais revenir sur le levier majeur de disciplinaire qui était l'éducation à la laïcité en cours de MC. Alors le programme d'enseignement moral et civique de 2015 articule 4 domaines: la sensibilité, le droit, la règle, le jugement et l'engagement. Le droit et la règle, le jugement et l'engagement. Et l'éducation à la laïcité et l'enseignement des faits religieux sont au croisement justement de plusieurs de ces domaines. Comprendre l'empathie, avoir de l'empathie, savoir ce que c'est que les principes de la République laïque, exercer le jugement critique, tout cela, ça rentre dans le cadre de l'enseignement du pluralisme des opinions et des croyances. Donc l'enseignement des faits religieux, pour moi, s'inscrit naturellement dans cette séquence d'apprentissage du pluralisme des opinions et des croyances. Alors, pour vous donner un exemple, quand je commence cette séquence, justement, sur l'éducation à la laïcité, donc les faits religieux avec ce levier-là s'inscrivent dans cet enseignement du pluralisme des opinions et des croyances. Je fais d'abord des séances sur un travail sur les différences et les ressemblances. Dans l'humanité, quelles différences ou ressemblances vous voyez ? Alors je fais à partir de photolangage, ils ont l'habitude de cette méthode pédagogique. Donc quelles différences et ressemblances vous voyez ? Comment arriver à vivre ensemble, à faire ensemble avec les différences ? Donc on part... voilà. Et après, on arrive au cadre républicain. Ça me semble important de poser que oui, il y a des religions, des opinions, des philosophies différentes, mais elles ont à s'inscrire dans un cadre républicain avec des valeurs de la triade républicaine. Donc là, à ce moment-là, je fais des séances sur justement les principes et les valeurs de la République française, avec notamment l'article 1er de la 5e Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et ils apprennent ces textes. On travaille sur les symboles, avec notamment le sceau, tout ce qui, les fêtes, les lieux, tout en lien avec les symboles de la République. L'année dernière, nous avons été amenés à faire, dans un projet ciné-concert, un film qui représentait justement tout ce cadre républicain, ces valeurs de la République, du vivre ensemble. Et ce film a remporté le prix de la laïcité décerné par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Et j'étais contente pour mes élèves, parce que je me suis dit, s'ils sont marqués par ça... Parce que, en fin de compte, quand on accompagne les élèves pendant un an, notre désir, c'est que ça les construise à vie. Donc, voilà. Quand je continue après, donc on arrive au domaine d'enseignement des faits religieux, qui s'inscrit, alors moi je l'inscris tout le temps dans le domaine du pluralisme, donc je dis, ben, c'est vrai que chacun peut croire, chacun a une philosophie, j'aime bien ce terme plutôt de philosophie, de croyance, avant d'arriver aux faits religieux. Et dans les séquences, dans la séance, on fait tout d'abord brainstorming sur les différentes philosophies, croyances. Je ne vais jamais amener un élève à dire « toi, en quoi tu crois ?» Mais c'est vrai que des fois, dans les brainstorming, c'est des choses qui peuvent sortir. Mais je crois qu'on ne doit jamais mettre mal à l'aise, en tous les cas, des élèves. Après, il va y avoir vraiment des temps, je dirais, d'enseignement où on va présenter... Alors, moi, je présente les trois religions, alors qu'on appelle monothéistes ou abrahamiques, tout en expliquant qu'il existe d'autres religions. Et là, on travaille par thème, avec des comparaisons, avec des photos, des textes, etc. Présentation des textes de référence, les grandes figures, les bâtiments, les lieux, les fêtes, bien sûr, et voilà des exemples de pratiques. Finalement, c'est tout un travail en comparaison de... Voilà. Alors, en lien entre la bibliothèque, dans la bibliothèque de la classe, il y a de nombreux albums sur ces questions de religion. C'est quelque chose de normal, quoi. Et c'est vrai que souvent, je vois quand même qu'il y a un intérêt pour les élèves à emprunter ces livres. Parallèlement, on fait un rallye lecture où il va y avoir des textes qui sont relatifs aux religions. Alors bien sûr, par exemple, il y a le journal d'Anne Frank, mais il y a 50 des sagesses du monde, etc. Et puis, on va, pour finir la séquence, avant l'évaluation, on fait des débats, des ateliers philosophiques où je propose des situations, où des fois, on fait aussi des mises en situation, où l'élève, finalement, est amené à se positionner dans cette situation précise par rapport aux religions. Et donc, on termine par une évaluation, parce que je dis, ça permet aux élèves de dire, mais c'est important et c'est normal. Alors, une évaluation qui va reprendre des questions sur le cadre républicain, sur des faits religieux, et puis aussi, des fois, des questions. Ça peut être des questions suite à une situation écrite ou à des photos, où je demande finalement à l'élève de développer une réflexion d'ordre moral par rapport à cette question, ces différentes religions. Alors, les finalités, vous avez bien compris, c'est... c'est comprendre qu'il y a un pluralisme des opinions et des croyances et que souvent on emploie le poncif de vivre ensemble, mais est-ce que finalement faire ensemble, c'est pas plus que vivre ensemble? Donc comment arriver à faire ensemble au sein d'une nation, au sein de l'humanité, avec nos différentes opinions et nos croyances? Et faire ensemble, c'est une richesse. C'est vraiment, moi je dis souvent dans la classe, vous voyez, on est tellement différents. Là même là, on se dit on est différents, et pourtant on peut construire quelque chose ensemble. Et c'est ça la beauté, c'est la richesse. Voilà. Et tout ça, en permettant à l'élève de développer un jugement critique, en permettant à l'élève de s'autoriser à même s'interroger sur ses propres opinions à lui. Je dis finalement, est-ce qu'on est... Quelqu'un qui est libre n'est-il pas celui qui peut se remettre en question? Alors, je ne veux pas demander à l'élève de se remettre en question, mais en tous les cas, je lui propose un terrain où il va pouvoir s'interroger. Alors, les obstacles rencontrés parmi les... Ça va au niveau de timing ? Parmi les collègues, moi, je me rends compte que souvent, c'est une question de manque de repères et de définitions floues, notamment de la laïcité et des faits religieux. Je vais prendre un exemple. À la réunion de pré-rentrée l'année dernière, une enseignante à un an de la retraite lance comme ça. On ne peut plus faire le marché de Noël à l'école, parce que d'abord, marché, c'est en lien avec les finances, on ne peut rien vendre à l'école. Et Noël, c'est pas laïque. Alors on va appeler ça la kermesse d'hiver. Je dis oui. Alors déjà, le mot kermesse, c'est rigolo, parce qu'en réalité, la kermesse, c'est une connotation religieuse, parce que ça veut dire c'est la fête à côté de la messe. Donc voilà. Et ce que je vois vraiment, c'est un manque de définition. Et dans les programmes de 2015 sur Eduscol, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait ce glossaire, qui est encore, je crois, j'espère en tous les cas, ce glossaire qui définissait ces termes. Parce qu'il faut qu'on s'accorde sur ces termes. Finalement, il y a eu quand même ce marché de Noël, parce que j'ai pu redéfinir un peu ce que c'était que la laïcité. Et puis surtout, je me disais, mais on coupe aussi cette tradition que les élèves avaient de construire des petits objets, d'aller les vendre, etc. Quel appauvrissement, finalement, de se couper de ça. Et puis, lors des entretiens semi-directifs, lorsque j'ai recueilli les données dans le cadre de ma thèse, je demandais aux enseignants, finalement, si vous deviez... pensez-vous que l'enseignement des philosophies, notamment les philosophies d'ordre religieux, ont lieu dans leur classe? Et là, je vais rejoindre quelques éléments que tu citais, Lola. Alors, certains... Alors, pourtant, c'est dans le socle. D'accord, mais c'est comme s'il y avait une certaine liberté pédagogique de le faire ou de ne le pas faire. Donc certains me disaient non, ça n'a pas sa place à l'école. Oui, mais je ne peux pas faire ça car je n'ai aucune culture religieuse. C'est le rôle de la famille, pas de l'école, c'est de l'ordre du privé. Cela peut être intéressant, mais c'est délicat car enseigner l'histoire sans donner l'envie, sans donner les valeurs, serait difficile de garder une neutralité, etc. Donc il y a quand même un flou. Et en même temps, certains disent « oui, c'est une ouverture culturelle, ça permet une ouverture d'esprit. Connaître les religions, ça me semble normal. Construire une culture commune, oui. » Donc je pense qu'il y a encore, on en parlera demain, finalement, de cette formation, mais il y a vraiment encore un besoin. Alors, et cette année, j'en ai profité, vu que je suis à l'ESPE, je demandais à des professeurs des écoles stagiaires de me dire « La laïcité, l'effet religieux, comment ça va pour vous ?» Et là, j'ai repris juste une phrase, c'est « Oui, ce sont des notions présentes. Il y a eu des temps de formation, mais il subsiste une certaine peur. On a peur de l'enseigner. On nous a expliqué, dit ce qu'il fallait faire, on en a parlé, mais on n'est pas formé à l'enseigner en classe, dans la pratique, ni à son organisation spécifique. » Donc il y a vraiment, je pense que c'est un peu comme l'enseignement moral et civique que je montrais dans ma thèse, c'est que finalement il y a un manque de représentation et il y a vraiment besoin d'un accompagnement particulier et d'exemples, alors pas modalisants, mais en tout cas d'exemples. Enfin, comme obstacle du côté des élèves, je me suis rendu compte que lorsqu'on fait un enseignement des faits religieux, ça va pouvoir être un référent si on a une situation à gérer dans la classe. L'année dernière, donc, on fait l'enseignement des faits religieux. Et puis quelques mois plus tard, il y a deux élèves qui, dans le temps d'activité manuelle, s'amusent à faire une croix, à la mettre à l'envers, à rigoler, etc. Et là, ça a été quelque chose où j'ai pu faire référence, un peu comme, je ne sais pas, en mathématiques ou d'autres choses, on vient faire référence à l'enseignement. Et ça permet vraiment de simplifier les choses. Et enfin, pour terminer, du côté de l'administration scolaire, alors moi, c'était assez intéressant parce que quand ces faits religieux et l'enseignement moral civique, notamment, est revenu dans les programmes, on était plutôt à mal parce qu'il manquait à l'époque d'outils. Maintenant, ça vient. Hein. Finalement, l'inspectrice, elle m'a dit, finalement, elle s'est adressée à moi pour aller former des enseignants, et je dois dire que c'était parfois compliqué parce que il y avait comme s'il y avait besoin encore d'une adhésion du monde enseignant par rapport à cet enseignement. Alors moi je me dis si la classe finalement n'est pas le lieu où sont exposées les différences, comment ça va se passer en dehors des murs de l'école? Et finalement, l'enseignement des faits religieux, comme tous les enseignements, n'est-il pas un enseignement d'utilité publique? Je vous remercie.
Merci donc d'avoir rappelé en quoi l'école avait un rôle primordial à jouer dans la transmission de cette culture qui aide les élèves à se construire. Alors on continue avec Claire, qui est enseignante d'histoire-géographie, et qui va nous parler de son approche et de son expérience.
En collège, donc, et alors pour nous, ce sont des prescriptions disciplinaires, donc on s'est fait hein, au collège, ça ne peut pas être laissé un petit peu, comme je l'entends à l'école primaire, comme ça, où on le fait ou on ne le fait pas. Nous, c'est plutôt fait. Alors moi, je vais commencer par les contestations, les obstacles rencontrés. Quand Pierre m'a demandé d'intervenir, j'ai réfléchi et moi, j'ai l'impression que depuis que j'enseigne, donc en 25 ans, je n'ai pas vraiment eu de contestation de cet enseignement de la part des élèves ou des enseignants. Peut-être en tout début de carrière, dans les années 90, 93, on enseignait encore les australopithèques. Et je me souviens d'un petit élève qui, au lendemain du cours, était venu m'apporter une revue en me disant « Madame, ma maman voudrait que vous lisiez ça ». Et c'était la revue des Témoins de Jéhovah. Mais bon, on en était resté là. Je lui ai dit, écoute, je connais, tu remercieras ta maman, mais je pense que ça n'a pas de rapport avec le cours d'histoire. Et puis, j'ai plutôt des élèves qui sont surpris qu'on puisse parler de religion, qui viennent du primaire, donc, en sixième, et qui me disent, mais madame, on peut parler de religion? Donc, ça, en fait, répond un petit peu à ce que vous dites. Et quand j'ai sondé, là, un petit peu ma classe de sixième, en leur disant, mais qui est-ce que vous avez fait de l'histoire des religions? En fait, un tiers des élèves en avaient fait, et les autres, pas du tout. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a plutôt une attente. Alors ceci dit, en parlant en salle des profs, j'ai deux jeunes collègues. Alors je dis jeunes parce que bon, elles le sont d'abord, qui ont été objet de contestation. Je vais vous lire là, du coup j'ai photocopié le mot. de ma collègue qui était adressée à ma collègue de français qui avait donné un texte sur David et Goliath. Donc la maman écrit ceci. Nous sommes étonnés du choix du texte donné à Nicolas, même si nous comprenons l'intérêt patrimonial et culturel de l'histoire de David et Goliath, nous ne comprenons pas le choix d'un texte issu de la Bible qui nous semble contraire au principe d'une école laïque. Nous suggérons que le groupe de Nicolas étudie un autre texte. Nous nous tenons à votre disposition. Donc ma collègue répond très bien qu'elle comprend tout à fait les réticences, qu'il s'agit bien de lire un extrait de l'Ancien Testament, non d'un point de vue religieux, mais pour son intérêt culturel et littéraire, qu'elle va faire un travail d'intertextualité, qu'il n'est pas question que Nicolas et son groupe étudient un autre texte. La maman continue en disant « Bonjour, je maintiens ». Et ça s'est réglé donc dans le bureau de la principale, qui a convaincu les parents que de toute façon il n'y aurait pas d'autre choix et que c'était des injonctions du programme. Même chose en musique cette année pour ma collègue qui faisait étudier des chants grégoriens. Alors là, la teneur du mot est un petit peu moins, le langage est un petit peu moins soutenu. Quand une classe trouve anormal de chanter une chanson sur Dieu, eh bien on écoute les élèves. Les parents doivent être respectés, ce n'est pas normal, il faut respecter l'éducation qu'on donne à nos enfants. Alors, je dis jeune parce que moi j'ai eu ces deux élèves-là et j'ai pas du tout eu de contestation de la part des parents. Donc je pense qu'ils s'adressent à des collègues qui peut-être n'ont pas... je pense qu'il y a vraiment une question de posture laïque. Et quand on est jeune collègue, et moi je pense qu'en début de carrière, je me positionnais peut-être pas suffisamment, ou en tout cas je le disais pas suffisamment aux élèves, que voilà, on va faire cette étude-là d'un point de vue purement historique. Et je pense qu'il faut le dire, il faut dire aux élèves d'où l'on parle. L'historien donc ne se prononce pas sur une croyance, il la restitue, il l'analyse, il la replace dans un contexte, il la met à distance. Et pour cela, il emploie un vocabulaire neutre. Et je pense qu'il faut à chaque fois bien le montrer aux élèves. Je leur dis, par exemple, là j'ai repris un exemple, l'historien dit « Jésus est mort crucifié sur ordre de Ponce Pilate », le croyant dirait « Jésus est ressuscité parce qu'il était le Messie ». Donc vous voyez bien la différence. Et par contre, ce que j'ajoute, c'est que ces cours ne doivent pas heurter aucune des convictions. Et que si tel est le cas, alors il faut qu'ils en parlent. C'est-à-dire qu'on est, d'un point de vue historique, dans un apport de connaissances, et que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la croyance. Et d'ailleurs qu'il y a des historiens croyants, des historiens athées, des historiens agnostiques, mais que chaque historien a le même discours. Moi, j'ai l'impression que les élèves ont vraiment plutôt une envie de comprendre. Il y a énormément de questions quand on fait ses cours sur tout, les rituels, les pratiques, et qu'on est plutôt sur un vide culturel de transmission, et qu'il faut répondre à ces questions. Alors souvent, on n'ose pas au début, peut-être, en disant « mais non, mais parce que c'est des questions en rapport, évidemment, avec notre société. Hein, » Donc décontextualiser du cours sur, effectivement, les débuts du christianisme. Mais je crois qu'il faut prendre vraiment le temps de répondre à ces questions. Et pour ça, on a l'EMC. C'est-à-dire que très souvent, le cours d'histoire se prolonge par une réflexion, un débat à visée philosophique ou une explication en EMC. Parce que ces questions sont importantes pour les élèves et c'est une des finalités de cet enseignement. Alors les difficultés, elles tiennent plutôt au temps très court, mais ça c'est la longue litanie des profs d'histoire, j'ai envie de dire, impartie à ces questions. C'est-à-dire que je pourrais passer beaucoup plus de temps à étudier les religions monothéistes ou polythéistes, parce que c'est passionnant, mais on a un temps hyper court dans un programme qui est où il faut absolument le terminer. L'EMC ou l'interdisciplinarité peuvent être des moyens de pallier ce manque de temps. L'âge des élèves. On est en collège, la plupart du temps, c'est 6e, 5e. Enfin, les faits religieux sont essentiellement étudiés en 6e, 5e. Ils sont très jeunes et les questions sont parfois complexes. Et ça, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une étude qui soit faite ensuite au lycée pour réapprofondir ces questions. Et puis l'éclatement. Donc le choix a été fait de mettre ces questions dans différentes thématiques et dans différentes disciplines. Et là, je crois que le rôle du professeur est important de faire sens, de montrer les résonances qu'il y a entre les différents thèmes d'expliquer aux élèves, par exemple, la sécularisation de notre société, que c'est le fait d'un long processus historique, donc de rappeler ce qui a été étudié en 6e, puis en 5e, pour voir comment, dans les sociétés modernes, cette sécularisation a pu avoir lieu, en fait. Et ça, je crois qu'il faut prendre ce temps-là. Et souvent, en début de carrière, on est vraiment dans les cours. C'est-à-dire qu'il faut faire ses cours, on voit qu'il y a les objectifs de connaissances. Et du coup, pour les élèves, c'est vraiment une accumulation de connaissances sans lien. Et ça, c'est dommage. Et je crois que c'est là où il faut prendre du temps. Alors, ma pratique, c'est une pratique disciplinaire et les prescriptions, ce sont les programmes avec des démarches, des contenus et les fichiers du SCOL qui, les enseignants qui sont ici connaissent bien, accompagnent. Et je crois que depuis maintenant une quinzaine d'années, on est plutôt très, très encadré, très aidé, à la fois pour trouver des documents, il n'y a pas de difficulté. Et même dans les manuels scolaires, moi j'ai envie de dire entre la fin des années 90... Et aujourd'hui, c'est vraiment, il y a eu un progrès énorme. La collègue de l'École pratique des hautes études disait qu'on a toujours enseigné ces questions. C'est vrai, mais dans les années 90, on trouvait dans les manuels le Abraham et son chemin tracé sur les cartes. Hein. Moïse était un personnage historique. On ne le mettait pas du tout, on ne le voyait pas comme un personnage mythologique. Hein. Donc ça, je crois que c'est aujourd'hui très bien fait et c'est très bien mis dans les manuels. On voit qu'il y a énormément de sources archéologiques qui permettent de confronter justement les textes à l'archéologie et de montrer que certains personnages aujourd'hui ne sont pas attestés comme étant des personnages historiques. Alors, quelles sont les finalités de cet enseignement ? Combler des lacunes d'une transmission, familiale qui n'a plus lieu. C'est l'argument patrimonial dont on a parlé ce matin, qui est essentiel si on veut donner des clés de lecture à nos élèves de tout ce qu'ils voient dans notre société, œuvres d'art, églises, synagogues, mosquées. Mais ça, c'est la finalité de l'école, j'ai envie de dire, au moins de l'enseignement primaire et secondaire. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'histoire des faits religieux, mais peut-être qu'il y a un vrai vide là qui est peut-être encore plus important à combler. Faire comprendre aux élèves que les religions ont évolué, ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on a souvent peut-être tendance trop, et les manuels incitent aussi peut-être à ça, à les fixer. Hein, elles sont apparues et comme ça dans leurs dogmes, etc. Or, je crois qu'il faut vraiment montrer, et ça, les années de collège le permettent, que les religions évoluent, qu'elles évoluent encore, d'ailleurs aujourd'hui, qu'elles ont été l'objet d'un schisme, par exemple, si on prend la chrétienté par une interprétation différente des textes, et ça, on peut très facilement le dire, que le Coran a été l'objet d'écritures différentes jusqu'à une fixation au 9e siècle. Donc ça, on peut vraiment le montrer aux élèves d'un point de vue historique. Comprendre le long mouvement qui a conduit à la sécularisation de notre société, c'est une finalité civique. Alors ce matin, quelqu'un disait qu'il trouvait que si la société n'y prend pas part, l'école a beau jeu d'avoir cette finalité civique. Moi, j'en suis convaincue. Alors par contre, je m'inscris complètement contre ça. Je crois que l'école, c'est un moment où on peut justement instiller justement des connaissances, mais pas seulement, peut-être déconstruire également des préjugés et puis comprendre, éveiller à l'esprit critique. C'est une éducation à la diversité des religions. Et ça, je crois que c'est essentiel, c'est-à-dire qu'en étudiant ces différentes religions, à la fois polythéistes et monothéistes, on donne une vision de différence dans l'espace et dans le temps. Et je crois que c'est une éducation à la tolérance, au jugement critique. Ça me paraît essentiel. On peut en histoire vraiment travailler ça. Et je crois que ça, ça doit être une des finalités de cet enseignement, éveiller. Alors modestement, en collège, effectivement, les élèves sont jeunes, mais vers l'âge de 14-15 ans, on peut commencer à déconstruire et donner des clés, ce que vous disiez, c'est-à-dire à s'interroger eux-mêmes sur, effectivement, ce qui dans la famille est dit ou ce qui, sans les forcer, jamais, mais éveiller un tout petit peu ça, je pense que c'est important. Et alors, la finalité en creux, c'est évidemment la laïcité, évidemment. Ça me paraît essentiel. Hein. Et toutes ces finalités, je crois qu'elles doivent être prises en compte quand on met en place nos cours, quand on écrit nos cours, je crois que c'est ces finalités-là qui doivent d'abord nous conduire dans l'écriture d'une leçon. Alors je vais vous présenter, j'ai choisi de vous présenter les religions polythéistes, parce que je crois qu'elles sont un formidable terreau d'analyse. Alors, plus du tout polémique, parce qu'effectivement elles sont mortes, et qu'en même temps à travers cette étude-là, si elle est faite pas d'un point de vue, souvent les étudient de façon très exotique avec le polythéisme, les dieux grecs, les dieux romains, c'est rigolo et tout, mais c'est pas ça l'intérêt. À la limite on peut le faire ça, mais l'intérêt est plutôt de montrer que dans ces sociétés il n'y a pas du tout de séparation entre ce qui est religieux et ce qui est profane. Et ça, c'est important. Si on arrive à montrer ça aux élèves, ils comprennent beaucoup mieux ce qu'est notre société. Souvent, il y a une entrée sur la religion, et puis ensuite, il y a un cours sur la démocratie en Grèce. Or, on ne se convertit pas à la religion grecque ou romaine. On est croyant quand on est citoyen. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté de penser, en fait. Hein. C'est vraiment une prescription. Être pieux, c'est respecter les rites. Le civisme, c'est respecter la tradition religieuse. C'est intéressant de montrer ça. Croire, c'est faire. Pour reprendre un livre de John Scheid sur la religion romaine, ou faire, c'est croire, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'avait intitulé, tous les actes de la vie, de la naissance à la mort, mais le voyage également, tout est religieux. Et la politique, elle est d'abord religieuse, parce que ces rites ont une signification. En fait, les hommes et les dieux vivent dans un même espace, les dieux interagissent tout le temps. Il y a une vision très hiérarchique, d'ailleurs, hein, on peut voir que les femmes sont exclues, on peut bien montrer ça, d'ailleurs, hein, que ceux qui participent à la religion, ce sont d'abord les hommes, et que ces rites vont souder la communauté. La communauté, elle est d'abord soudée par la religion, parce que hommes et dieux vivent ensemble. Et du coup, on peut réfléchir à l'inverse sur qu'est-ce qui soude notre société, notre nation aujourd'hui. Ben, c'est plus du tout la religion, justement. C'est d'autres choses. Et donc, ça permet là de faire un cours sur les valeurs républicaines, par exemple. Hein. Mais ça permet, alors là, j'ai mis d'étudier les religions monothéistes et de montrer bien l'extrême différence entre ces religions qui ont une relation personnelle, un livre, elles sont révélées, là où les religions polythéistes n'ont rien du tout de personnel. C'est un collectif, le citoyen croyant fait d'abord partie d'une collectivité, et c'est en ça qu'il pratique. Même le culte familial est un culte au nom de la collectivité des citoyens. Il y a un foisonnement d'images religieuses dans les religions polythéistes. Donc on peut montrer après que ce n'est pas le cas dans toutes les religions. Il y a une certaine tolérance, puisque ce sont des religions agglutinantes et syncrétiques, hein, qui, au fur et à mesure des conquêtes, vont prendre les dieux, mais avec certaines limites quand même, puisque le clergé sera toujours romain, en fait, et les pratiques seront romanisées. Et puis, quand le dieu est unique et remet en cause la religion, ben, dans ces cas-là, on l'exclut. Donc voilà comment, à travers l'étude de ces religions polythéistes, on peut avoir une entrée et poser les premiers jalons. Parce que c'est toute la difficulté, et je vais en terminer là, de faire ces études en 6e, 5e, où les élèves sont encore très jeunes. Ils ont énormément de questions, hein, mais je pense que... c'est lié, on a un temps très très court, et je crois qu'on a tendance à souvent étudier ces religions-là polythéistes sous un angle d'un chatoiement exotique qui plaît, alors que c'est là où on pourrait poser des premières bases d'une réflexion critique et analytique des faits religieux.
Merci encore donc à Claire pour ce témoignage très enrichissant et qui montre aussi le lien qui existe du coup entre l'histoire naturellement et l'enseignement moral et civique, puisque là vous avez montré à travers le polythéisme grec du coup le lien qu'on pouvait faire avec la démocratie et donc des valeurs, ou en tous les cas une réflexion peut se mener avec les élèves sur ces deux champs disciplinaires là. Alors, on va pas faire vite, hein, mais on va quand même pas traîner. Donc, la dernière parole donc, est accordée à Muriel. Voilà.
Alors je vais aller assez rapidement puisque beaucoup de points ont été, que je voulais évoquer ont été évoqués par mes collègues ici. À la différence de mes collègues présents, moi j'enseigne en lycée et j'ai essentiellement eu des classes de première et de terminale. Et donc les questions d'enseignement des faits religieux et de l'éducation à la laïcité se posent un petit peu de manière différente puisque parfois les convictions religieuses de mes élèves interfèrent avec des questions d'identité et des phénomènes de groupe qui sont parfois un petit peu compliqués à gérer. Les leviers sur lesquels je m'appuie pour enseigner les faits religieux et surtout l'éducation à la laïcité, le premier levier, c'est ma formation initiale. J'ai un doctorat en histoire des faits religieux et donc j'ai une formation initiale assez solide par rapport à la plupart de mes collègues. Si bien que je ne me suis jamais demandé si j'étais légitime ou pas, ou s'il était légitime ou pas d'enseigner les faits religieux à l'école. Pour moi, c'était une évidence. J'enseignais les faits religieux de la même manière que j'enseignais la révolution industrielle. Le deuxième levier sur lequel je m'appuie et qui est un petit peu particulier, c'est mon expérience d'enseignante dans des lycées français à l'étranger. J'ai enseigné à Madagascar, j'enseigne actuellement au Brésil, dans des sociétés qui ne sont pas ou peu sécularisées. Et pour mes élèves nationaux, il est normal d'avoir une religion, il est souvent normal de l'exprimer, et ce qui les étonne le plus, finalement, c'est l'athéisme ou l'agnosticisme. Donc c'est un contexte un petit peu différent du contexte français. La deuxième particularité, c'est la manière dont on comprend la laïcité, dont on perçoit la laïcité au Brésil comme à Madagascar. Je vais prendre un seul exemple. Je vais prendre deux exemples. Un sur le Brésil, un sur Madagascar. À Madagascar, j'enseignais au lycée français de Tananarive. Au lycée français de Tananarive, les jeunes filles musulmanes d'origine indienne étaient autorisées à porter le voile dès la sixième. J'ai travaillé au lycée français à partir de 2007 et donc après la loi de 2004. Et cet accommodement, en quelque sorte, ne dérangeait finalement personne, ni les enseignants, ni les parents. Deuxième exemple, sur le Brésil, le jour des résultats de l'élection présidentielle, donc c'était il y a quelques mois, le nouveau président, a prié en direct à la télévision publique, sur la principale, d'ailleurs retransmise sur toutes les chaînes de télé du pays. Il a prié en direct en tenant la main de son épouse et d'un pasteur évangélique. Alors ça, cette scène totalement irréaliste pour un Français, en particulier pour une enseignante d'histoire géo que je suis, m'a beaucoup marqué et elle montre que le Brésil est un pays laïque, hein. Mais la perception que les Brésiliens ont de la laïcité est quand même différente de la nôtre. Et ce décentrage contraint et forcé, hein, finalement, je trouve m'a enrichi ma pratique et me permet sans doute de poser un regard plus distancié sur les passions françaises suscitées par les questions de la laïcité. Et je crois que j'apporte quelque chose de plus enrichissant, de plus positif à mes élèves, en systématiquement comparant les situations. Le troisième levier, c'était ma posture, mais Martine l'a évoqué. Donc, comme elle, je pense qu'il faut évidemment être neutre, mais également avoir un immense respect et une bienveillance par rapport aux convictions que les élèves peuvent exprimer en classe, leurs convictions religieuses. Et ça, ce n'est pas toujours le cas dans l'enseignement secondaire, où un certain nombre d'enseignants ont des postures parfois de jugement qui sont implicites ou explicites et qui ne sont pas toujours d'ailleurs formulées de manière ou pensées de manière consciente, c'est souvent inconscient. Et ça peut être assez dérangeant pour des élèves qui peuvent se sentir agressés par le regard que l'on porte sur leur confession. Alors, j'ai été invitée aujourd'hui parce que j'ai monté une séquence dont je vais vous montrer un court extrait à partir d'un chanteur de rap qui s'appelle Medine et qui a réalisé un clip quelques jours, qui a été mis en ligne sur Internet quelques jours avant les attentats de Charlie Hebdo et que certains connaissent peut-être, qui s'appelle Don't Like. Alors, on ne va pas tout regarder, hein. Thank you.
Dieu est mort, selon Nietzsche. Nietzsche est mort, signé Dieu. On parlera laïcité entre laïd et la Saint-Mathieu. Nous sommes les gens du livre face aux évangélistes d'évangéliques. Un genre de diable pour les anges de la TV reality. Tu portes la barbe, tu es de mauvais poil. Porte le voile, c'est ton beau bras. Crucifions les laïcs comme à Golgotha. Le polygame vaut bien mieux que la mistroscale. Ne cherche pas de viande à l'âne dans tes lasagnes, c'est que du cheval. Au croisement entre le voyou et le révérend, si je te flingue dans mes rêves, je te demande pardon en me réveillant. En me référant toujours dans le Saint-Coran. Si j'applique la charia, les voleurs pourront plus faire de mal courant. Ils connaissent la loi, on connaît la juge. Pas de signe ostentatoire, pas même la croix de Jésus. Je suis une djinn là-bas, à la journée de la chute. Islamo, Kaira, c'est ma prière de rue. Là-bas, propre dans ce pays, c'est donc like. Ton poil, ma sœur, dans ce pays, c'est donc like. Ta femme n'est gueux, dans ce pays, c'est donc like. Madame, monsieur, votre couple est donc Kaira. Tous au paradis, on ira. On ira, tous au paradis, Inch'Allah. On ira, tous au paradis, on ira. On ira, tous au paradis, enfin seulement ceux qui y croient. Ils n'ont ni Dieu ni maître, à part maître Canter. Je suis l'arbre de leur laïcité avant qu'on le mette en terre. Mariam est une fémène, tatouée fort God sur les mamelles. Où était-elle dans l'affaire de la crèche, séquestrée chez Madame Fourès? Une banane contre le racisme, du jambon pour l'intégration. Repousser les nazis islamistes, on ferme les portes de l'éducation. Ah bon? Pardon patron, moi y'a bon. Vas-y Yous, balance le billet, je mets des fatwas sur la tête des cons. Religion pour les francs-maçons, catéchisme pour les athées. La laïcité n'est plus qu'une ombre entre l'éclairé et l'illuminé. Nous sommes épouvantail de la République. Des élites sont des prosélytes, des propagandistes ultra-laïques. Ah, je me suffis d'Allah, pas besoin qu'on me l'assise. Ma pièce de bœuf halal, je la mange sans l'étourdir. À la journée de la femme, je porte un burkini. Islamo, racaille, c'est l'appel du Mouedzin. Là-bas, propre dans ce pays, c'est donc like. Ton poil, ma sœur, dans ce pays, c'est donc like. Ta femme n'est gueux, dans ce pays, c'est donc like. Madame, monsieur, votre couple est donc like. On ira tous au paradis, on ira. On ira tous au paradis, Inch'Allah. On ira tous au paradis, on ira. On ira tous au paradis, enfin seulement ceux qui y croient. Que le mal qui habite le corps de dame laïcité prononce son nom. Je vous le demande en tant qu'homme de foi. Quelle entité a élu domicile dans cet enfant vieil de 110 ans? Pour la dernière fois, ô démon, annoncez-vous ou disparaissez de notre chère valeur. Nadine Morano, Jean-François Copé, Pierre Cassin et tous les autres, je vous chasse de ce corps et vous condamne à l'exil pour l'éternité. Vader est trop, Satana.
Alors, c'est pas pause, non. Je vais l'enlever. Voilà. Alors, j'ai évidemment beaucoup impressionné mes élèves qui se sont dit waouh, elle connaît un chanteur de rap. Ça, c'était le premier succès. Et ensuite, comme je ne sais pas si vous avez pu comprendre les paroles, c'est un texte qui est quand même d'abord très dense. Le clip est également très dense au niveau sémantique et il est très polémique. J'ai bâti cette séquence, c'était le lendemain des attentats de Charlie Hebdo. J'avais découvert le clip peut-être 2 jours avant. Donc c'était vraiment... En découvrant le clip, je m'étais dit, tiens, je pourrais quand même faire quelque chose. Et puis, suite aux attentats, je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Je n'en ai pas fait quelque chose immédiatement. Je n'ai pas répondu à la demande institutionnelle qui nous conseillait d'en parler avec nos élèves. J'ai attendu quelques mois, parce que réagir à chaud aux attentats de Charlie Hebdo me posait problème. Je ne voulais pas faire un... Enfin, voilà, bon, ça me posait problème. Et donc, j'ai choisi ce clip pour plusieurs raisons. La première, c'était pour évoquer avec mes élèves les questions soulevées par la visibilité de l'islam dans l'espace public et toutes les controverses qui vont avec. La deuxième finalité, c'était de leur apporter des connaissances sur l'islam, parce que je trouvais que, par exemple, dire « tous les musulmans ne sont pas des terroristes », c'était un petit peu court au niveau intellectuel. Et la troisième finalité, c'était d'arriver à les faire argumenter, à les faire débattre avec des convictions religieuses différentes et des convictions politiques différentes également. À cette époque, j'enseignais pas à l'étranger, j'enseignais à Sète. Et j'avais une classe de lycée, dans un lycée de zone sensible, assez mélangée. Voilà. Ça a été un succès. Mes élèves ont réussi à argumenter sans s'écharper. Il y a eu vraiment des échanges extrêmement riches. Et à l'issue de cette séquence, qui était pourtant quand même un petit peu provocatrice, je n'ai eu aucun retour négatif, ni des familles, ni de l'administration, puisque bon, ça c'est normal, puisque les familles ne s'étaient pas plaintes auprès du chef d'établissement. Et ni de mes collègues, ni de mes élèves. Et ça m'a confortée dans ma pratique. Aujourd'hui, je passe quasiment systématiquement par l'actualité, y compris lorsqu'elle est passionnelle et surtout lorsqu'elle est passionnelle, pour essayer de comprendre la place des faits religieux dans notre monde contemporain. Alors, nos programmes d'histoire nous y invitent, mais c'est en particulier dans le cadre de l'EMC où je prends cet espace comme un espace de liberté pour traiter des questions que l'on ne peut pas forcément traiter dans le cadre des problèmes des programmes d'histoire parce que, comme l'a dit Claire, on manque énormément de temps. Et dans le cadre de ce programme d'EMC, on est beaucoup plus libre sur le plan pédagogique. Et en particulier, on peut laisser un espace pour les élèves pour qu'ils puissent s'exprimer. On peut leur laisser aussi un espace pour qu'ils puissent débattre sans forcément qu'on intervienne. Alors forcément, on guide les débats. Hein. Les débats qui se sont déroulés dans ma classe, c'était moi qui leur avais donné, qui leur avais sélectionné des textes avec des positions assez tranchées sur cette question de l'islam dans l'espace public. Et ils ont argumenté à partir des connaissances que je leur avais fournies. Mais il n'empêche que cet espace de liberté, je crois, est... très appréciable pour les enseignants et également pour mes élèves. Voilà. Merci.
Merci également pour ce témoignage très riche et différent, mais qui vient compléter tous ceux qu'on a pu écouter. Y a-t-il du coup des questions pour terminer ? Y a-t-il des questions ? Sinon, moi, j'en ai une, du coup. Mais... Bon, ben voilà, j'y vais. Du coup, c'était quoi le but que vous recherchiez en travaillant à partir de ce support, le clip que vous nous avez montré?
D'abord, il y avait l'amorce, parce que les élèves de primaire sont souvent enthousiastes, les élèves de collège et de lycée le sont beaucoup moins. Donc... j'essaie, dans la mesure du possible, de toujours travailler ces entrées dans un thème, dans une question. Donc, c'est ce que j'appelle l'amorce ou l'accroche. Et donc, passer par un clip de rap qui m'était totalement étranger, voilà, je savais que j'allais accrocher mes élèves. Ensuite, il y avait un deuxième objectif qui était l'argument, la visée patrimoniale, c'est-à-dire arriver à leur donner des connaissances sur la laïcité à la française. On a fait derrière toute l'histoire de la laïcité. Et donc des débats qu'elle a suscités, y compris en 1905 et aujourd'hui. Il y avait également une visée plus civique qui était d'arriver à les faire discuter sur des sujets qui étaient quand même un petit peu compliqués, un petit peu passionnels, ils peuvent avoir des convictions religieuses et politiques différentes, tout en ayant un projet commun et tout en arrivant à discuter, argumenter et éventuellement à s'affronter. Puisque à l'issue de tout le travail là, d'argumentation et de « je donne des connaissances », ils ont eu à présenter un projet. Qu'est-ce qu'ils feraient en gros s'ils étaient membres du gouvernement et qu'ils voulaient statuer juridiquement sur la visibilité de l'islam en France? Voilà. D'accord. Il y avait un objectif vraiment de connaissance, un objectif de vivre ensemble et un objectif de citoyen, quoi. Quel est le positionnement? Quel sera votre positionnement futur de citoyen sur ces questions qui vont être amenées à se poser?